hypersensibilité, une œuvre, une obsession, c'est la règle de trois de Marcel Proust et Véronique Auboui. Dès l'enfance, Marcel Proust souffre d'une hypersensibilité maladive. Né le 10 juillet 1871 à Paris, il inquiète ses parents qui composent avec sa santé fragile. Vers l'âge de 9 ans, il subit une première grosse crise d'asthme et manque de succomber. Mais son hypersensibilité est aussi affective et se manifeste par un attachement profond à sa mère Jeanne. « Elle me sait si incapable de vivre sans elle, si désarmée de toute façon devant la vie », écrira-t-il plus tard. Adulte, dans son appartement du boulevard Haussmann, il fait tapisser sa chambre de plaques de liège pour s'isoler du bruit. En 1962, Jean Cocteau se souviendra des visites qu'il lui rendait.
On entrait dans un véritable nuage de poudre anti-asthmatique. Alors il était couché, tout habillé sur son lit. Il croyait toujours qu'on avait commis une faute à son égard. Et peut-être l'avait-on commise, parce qu'il vivait avec une telle hypersensibilité qu'il est possible qu'on ait commis des fautes dont on ne se rendait pas compte.
Après la mort de sa mère en 1905, il entame l'écriture de son œuvre. Du côté de chez Swann, le premier tome de La Recherche sort en 1913. « Longtemps, je me suis couché de bonne heure », la première phrase a failli disparaître lors de l'ultime relecture avant publication, mais Proust décide finalement de la conserver. Dans ce même livre, il écrit « Ma seule consolation quand je montais me coucher était que maman viendrait m'embrasser quand je serais dans mon lit ». Grand spécialiste de Proust, l'écrivain Jean-Yves Tadier est revenu sur ce célèbre extrait dans un livre où il établit un parallèle entre Proust et Freud.
« La scène fondatrice de La Recherche perdue est également une scène freudienne avec le rôle du père, le rôle de la mère ». Et ce contact physique absolument indispensable qui correspond à une sexualité extraordinairement primitive.
À la recherche du temps perdu comporte 7 tomes qui représentent environ 3500 pages. Marcel Proust meurt en 1922 à l'âge de 50 ans. Les 3 derniers volumes paraissent post-mortem. Cette œuvre est devenue une obsession pour Véronique Auboui. Elle s'y consacre depuis qu'elle en est tombée amoureuse en 1987. Et depuis 1993, elle enregistre des vidéos de lecteurs à travers le monde.
J'appris à ces détestables signes qu'enfin, j'étais en train d'embrasser la joue d'Albertine.
Le projet, qui consiste à lire La Recherche en intégralité, devrait représenter 150 à 200 heures de film et être achevé aux alentours de 2033.
Véronique Auboui et une liseuse, Clémence Berton. Vous dites liseur, parce que les liseurs lisent à haute voix, c'est voilà. Ça. Mais qu'est-ce qui... quand êtes-vous tombée en proustolâtrie? En 87?
Oui.
Mais dans un train?
En fait, oui, en Amérique du Sud. Ouais. Mais j'avais l'impression de... En fait, j'ai toujours eu l'impression de le connaître. C'est ça qui est bizarre. Parce que j'avais entendu parler de lui. J'avais commencé à lire aussi. Je fais partie de ces gens qui s'y sont pris à plusieurs fois avant de commencer vraiment. Et effectivement, j'étais partie dans un long voyage en Amérique du Sud, toute seule, en solitaire. Et j'avais mis au fond de mon sac à dos le premier tome.
Et c'est ainsi que ça a démarré. Et pourquoi faire lire à haute voix, à des inconnus, à tous les gens qui vous sollicitent ou que vous croisez? Pourquoi? À quoi correspond cette démarche? Au fond, c'est quelque chose qui est infini, ça ne se terminera jamais. Un peu comme La Recherche.
Malheureusement, si, ça va se terminer. Je viens d'attaquer le temps retrouvé. Donc, mais pourquoi? C'est un tribut. Je pense qu'à un moment, je me suis dit, je suis cinéaste et je veux faire un film avec À la recherche du temps perdu parce que c'est un livre à qui je dois tout. Et donc, je me suis dit, je vais faire ce tribut, de faire lire À la recherche du temps perdu à des gens de tous horizons, de tous milieux, de toutes générations et dans le temps. Et voilà, je ferai ça. Ça sera ma mission.
Votre grande œuvre.
Oui.
Et vous, Clémence Berton, comment êtes-vous entrée en Proust?
Exactement pareil. J'ai eu plusieurs lectures qui n'aboutissaient pas du tout. Je m'arrêtais, je ne comprenais rien. Voilà. Et puis un jour, j'ai décidé de le lire à haute voix. Et là, tout a pris. C'est comme si on me parlait, comme si j'entrais en conversation même avec moi-même. Et toute ma vie a changé, vraiment.
Vous seriez d'accord avec Jean Cocteau qui disait il y a des œuvres longues, ou plutôt il y a des œuvres courtes qui sont longues. Et La Recherche, c'est long, mais c'est court parce qu'on y revient toujours.
Oui, c'est vrai.
Et on y trouve toujours quelque chose de nouveau. C'est incroyable. C'est moi, je vis avec depuis plus de 30 ans et je ne m'en lasse pas. Je suis sans arrêt régénérée. C'est une joie infinie, en fait, de lire ce livre.
J'ai oublié de dire bonsoir à Nadia et à Benjamin. On est tellement fascinés par votre état en Proust que j'ai oublié de dire bonsoir par
Mais Clémence Berton, en quoi ça a changé votre vie, c'est-à-dire au quotidien?
Le tout, oui, le tout. En fait, à chaque page, je me disais, mais il me connaît, mais pourquoi il me parle comme ça alors que j'étais pas née? Même si je pense qu'on s'est connus à un autre moment. Et du coup, je me disais, mais waouh, comment il peut me parler de ça? Et en fait, il a approfondi en moi des sujets. Je me suis souvenue d'odeurs que j'avais oubliées, de ma grand-mère, par exemple, décédée il y a 15 ans. Je me suis rappelé des souvenirs.
C'est presque psychanalytique, quoi.
Mais oui, mais c'est une sorte d'hypnose sur 4000 pages. Quoi.
Est-ce que le monde se divise entre deux catégories de gens, ceux qui ont lu Marcel Proust et ceux qui ne l'ont pas lu, selon vous, Véronique Auboui?
Oui, moi je vois bien, par exemple, je suis entourée de gens qui ne l'ont pas lu.
Oui.
Ma famille, mes parents, oui. Oui. Mon mari.
Et ça fabrique autre chose dans la sensibilité ou dans le rapport à eux, précisément?
Non, pas du tout, en fait. C'est quelque chose que je pense que c'est vraiment un voyage intime et personnel, tellement fort que, après tout, c'est difficile à partager. Mais quand même, je pense que dans mon film, c'est une chose qui se partage, en revanche, justement. Parce qu'il y a le cinéma qui est là, la voix... L'image, la caméra. Voilà,
puisqu'il y a la voix et la caméra et l'image. Clémence Berton, voulez-vous lire un extrait?
Plaisir.
Un extrait de quoi?
Eh bien, du premier tome, Du côté de chez Swann. C'est l'entrée, hein. C'est... Alors, c'est parti. Bon, regardez, ça se...
Le livre a été, le livre a été lu.
Je trouve très raisonnable la croyance celtique que les âmes de ceux que nous avons perdus sont captives dans quelque être inférieur, dans une bête, un végétal. Une chose inanimée, perdue en effet, pour nous jusqu'au jour, qui pour beaucoup ne vient jamais, où nous nous trouvons passés près de l'arbre, entrés en possession de l'objet qui est leur prison. Alors elles tressaillent, nous appellent, et sitôt que nous les avons reconnues, l'enchantement est brisé. Délivrées par nous, elles ont vaincu la mort et reviennent vivre avec nous. Il en est ainsi de notre passé, ces peines perdues que nous cherchions à l'évoquer. Tous les efforts de notre intelligence sont inutiles. Il est caché hors de son domaine et de sa portée en quelque objet matériel, en la sensation que nous donnerait cet objet matériel, que nous ne soupçonnons pas. Cet objet, il dépend du hasard que nous le rencontrions avant de mourir ou que nous ne le rencontrions pas.
Merci Clémence Berton.
Avec plaisir.
Véronique Auboui, avant qu'on parle de Proust aux États-Unis avec vous, Nadia, qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui va vous dire « Mais Proust, c'est des phrases labyrinthiques qui n'en finissent pas. La plus longue compte 845 mots. » Bon, la plus courte en compte deux, mais la plus longue, c'est celle surtout qui marque les anti-Proust ou ceux qui ont peur de Proust. Comment vous les convaincriez?
En leur disant que cette phrase est longue par nécessité, qu'il faut s'habituer à la lire, qu'il faut s'habituer à rentrer dedans, que... c'est une phrase qui est longue parce qu'elle explore les tréfonds et la complexité de l'âme humaine et des sentiments, choses qui n'ont pas changé depuis 100 ans, qu'elle est belle, il y a des mots qui arrivent comme ça et c'est un enchantement à chaque fois et que vraiment elle fait ses zigzags comme ça pour aller et elle dit une chose et puis elle part dire autre chose qui va et puis elle revient quand même et finalement... Elle reste ouverte jusqu'au bout, en fait. C'est-à-dire qu'à la fin, la phrase est terminée, on a exploré et on peut soi-même continuer sa propre réflexion.
Sa propre lecture.
Et c'est une phrase donc généreuse.
Magnifique. Nadia, aux États-Unis, Proust est partout?
Oui, absolument. Ouais. Les États-Unis raffolent de Proust, ils fascinent, ils subjuguent les universitaires, les artistes depuis longtemps, hein. Les clubs de lecture aussi, dans les petites banlieues américaines. C'est une passion qui fait l'objet d'une série d'articles en ce moment passionnants sur un site qui s'appelle Slate. On apprend plein de choses. On découvre par exemple que le deuxième plus important fonds d'archives consacré à Proust, il se trouve pas ici en France, mais aux États-Unis, dans l'Illinois, dans une université. On trouve quasiment toute sa correspondance, que Proust est plus cité dans le New York Times qu'Hemingway ou que Faulkner, que c'est dans le New York Times d'ailleurs qu'Andy Warhol avait publié ses dessins de chaussures orphelines, vous savez, qu'il avait baptisé « À la recherche du chou perdu ».
Petit malin.
On retrouve aussi des références à Proust, pardon, dans la série Les Sopranos, Tony Soprano qui en parle à sa psy dans une très très longue tirade absolument géniale. Quant au questionnaire de Proust, il figure encore aujourd'hui en toute dernière page du magazine Vanity Fair et il sert aussi à interviewer des stars américaines dans les shows télé. Comment est-ce que vous expliquez qu'il ait à ce point traversé l'Atlantique, ce qu'il n'a pas fait de son vivant? Qu'est-ce qu'il lui trouve aussi donc les Américains à Proust?
C'est difficile à dire, effectivement, parce que en tout cas, ils sont passionnés, vraiment, vraiment. Et d'ailleurs, moi, je pars faire une tournée...
Aux États-Unis.
Voilà.
Vous allez montrer...
Je vais raconter Proust
en une heure.
Proust in one hour. par contre, je pense que c'est eux, les universitaires et les critiques américains, à un moment, ils ont transformé la critique. C'est-à-dire qu'ils ont été... Nous, on a été assez respectueux pendant très longtemps. Ouais. Et je pense qu'eux, à un moment, ils ont permis à la critique de...
d'évoluer différemment.
Oui.
Une dernière question, Clémence Berton. Est-ce qu'il y a une vie en dehors de Marcel Proust? Est-ce qu'il y a d'autres auteurs ou d'autres livres? Ou est-ce que vous êtes monomaniaque? Car vous êtes très atteint.
Que Marcel Proust,
mais peut-être.
Rencontré.
Et pourquoi pas?
Non, il y a beaucoup le 19e siècle, principalement le 19e siècle. D'ailleurs, c'est très étrange qu'il soit là, parmi tous mes auteurs du 19e siècle, surtout la période romantique.
Très bien. Merci à toutes les deux. Merci à vous d'être venu lire ce passage merveilleux qui précède celui sur la mémoire involontaire. Et merci à vous, Véronique Aubouy. Vous serez demain dans le cadre du centenaire à la Maison de la Poésie à 19h, donc demain vendredi. Et puis il y a une exposition aussi en Maine-et-Loire, ouverture demain de l'exposition Fou de Proust au château de Montsoreau. Et il y a des images, mais il y a des heures et des heures de votre documentaire Proust lu.
Voilà, 151 heures, 43 minutes et 14 secondes.
Elle est d'une précision de malade. Voilà. Merci infiniment à toutes les